Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire,
bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette qui est là pour cette émission de C'est bon pour la santé sur Canal M. Aujourd'hui, en deuxième partie d'émission, j'ai eu envie de demander à des gens qui vivent avec différentes limitations fonctionnelles quelle était, et peu importe là, s'ils étaient un danseur professionnel dans le milieu de la danse ou quelqu'un qui avait inclus la danse dans son quotidien, quel était l'impact? Donc, l'impact de la danse pour des gens qui vivent avec différentes limitations fonctionnelles, qu'est-ce que ça a pu apporter à leur vie? Et cette discussion se fera avec Luca Lesilex Patuelli, lui qui est une vedette internationale de breakdance, oui, et Marie-Claude Théroux, une usagère qui, elle, a pris part aux ateliers de thérapie par la danse du Centre de réadaptation Lucie Bruno. Et là, vous vous demandez qu'est-ce que c'est ça, ces ateliers de danse-là. Mais pour nous en parler en première partie d'émission, et pour parler aussi de la thérapie par la danse, qui n'est peut-être pas un terme nécessairement connu pour vous, j'en parlerai avec Chloé Proulx-Goulet, elle, ergothérapeute et co-responsable du groupe de thérapie par la danse du Centre de réadaptation Lucie Bruno. Au cours de l'été, on avait vent de cette entente entre le Centre de réadaptation Lucie Bruno et les Grands Ballets canadiens de Montréal. Donc, une alliance dans le but d'élaborer des projets de recherche très spécifiques sur la thérapie par la danse et le mouvement. Pour nous en parler, Chloé Proulx-Goulet, ergothérapeute et co-responsable du groupe de thérapie par la danse du Centre de réadaptation Lucie Bruno. Merci d'être là, Chloé.
Ça me fait plaisir.
Une bonne nouvelle quand même, parce que le projet a été mis sur pied, les ateliers ont été mis sur pied du côté du Centre de réadaptation en 2009.
Oui.
Et là, au cours de l'été, s'est allié avec vous, à vos efforts, les Grands Ballets de Montréal. Qu'est-ce que ça change dans votre approche, cette collaboration-là?
C'est vrai qu'actuellement, on est en projet de recherche. Donc, c'est un projet qui était déjà en cours, financé par l'OPHQ. L'Office des personnes handicapées du Québec. Et c'est une initiative aussi du CRIR, qui est le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation de Montréal.
Oui.
On s'est fait connaître par des conférences par les Grands Ballets qui ont développé le Centre national de danse-thérapie. Et là, on s'est alliés pour essayer de mettre en commun nos efforts parce que la danse-thérapie, c'est pas quelque chose de très connu au Québec.
Voilà.
Donc, en mettant nos efforts ensemble, nos connaissances, nos expertises, on va pouvoir s'entraider pour essayer de mieux développer cette thérapie, ce médium-là,
ouais,
de faire connaître la danse aux gens qui ont des limitations, puis d'essayer de trouver des données probantes sur l'utilisation de la danse.
Pas très connu au Québec, est-ce que ça l'est davantage ailleurs?
Oui, par exemple, aux États-Unis, il y a l'American Dance Therapy Association, donc qui est un organisme qui balise un peu plus la danse-thérapie, danse-thérapie ou dance movement therapy. L'organisme, l'association va mieux baliser l'utilisation de la danse, va former des thérapeutes avec un cours qui est très organisé. Au Québec, il n'y a pas ça. N'importe qui peut se proclamer danse-thérapeute. Il n'y a pas vraiment de formation non plus au Québec de disponible.
Je le disais tout à l'heure, l'un des objectifs est d'élaborer des projets de recherche très spécifiques sur la thérapie par la danse et le mouvement. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs?
Actuellement, c'est pas utilisé en milieu de la santé. Donc, si on a des projets de recherche qui permettent d'avoir des données probantes qui disent que la danse est utile pour les usagers, éventuellement, on va pouvoir développer une école pour former des danse-thérapeutes et on va pouvoir inclure les danse-thérapeutes dans les milieux de la santé.
Ouais.
Donc, c'est le but à long terme, mais on n'est pas rendu là encore.
Qu'est-ce que c'est la danse-thérapie ou plutôt la thérapie par la danse? Est-ce que, premièrement, c'est un terme qui est vraiment distinct ou les deux peuvent se dire?
comme je disais, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de balise ici. Donc, tout le monde l'appelle ça un peu comme ils veulent. La thérapie par la danse, la thérapie par le mouvement ou la danse-thérapie. Ou...
Tout ça... est OK.
Tout est OK. Ça dépend de comment nous, on a envie de le dire. À Lucie Bruneau, on appelle ça de la thérapie par la danse.
Et vos ateliers sont en place depuis 2009.
Ouais.
Comment ça s'articule?
Ben c'est ça, c'est un projet qui a été développé par Brigitte Lachance, qui a fait un bac en danse et qui est devenue physio aussi dans le cours de sa vie. Et avec Gabriella Aboud, qui est physiothérapeute, elle a développé ces ateliers-là. Moi, je suis arrivée dans l'équipe pas longtemps après et on a développé ça. C'est un groupe qui est offert à nos usagers. Ça dure 12 semaines, c'est une heure et demie et c'est ouvert à toutes les clientèles.
OK. Quel type de clientèle?
Oui, ben, des gens qui ont eu des traumatisés crâniens, des gens qui ont eu des AVC, des gens qui ont des maladies évolutives, par exemple sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, Parkinson, des gens qui ont eu des accidents de voiture, d'accidents de travail. Donc, tous ceux qui ont une déficience physique qui sont admis à Lucie Bruneau.
Mm-hmm. Et quels sont les bienfaits observés?
En gros, mon expérience clinique, parce qu'on a un projet de recherche qui a démontré des effets, mais mon expérience clinique, c'est que ça améliore beaucoup les déplacements. Les gens ont envie de sortir de la maison, d'aller ailleurs, dans les foules. Ils ont envie de se mettre en mouvement. Ils ont des meilleures capacités physiques, donc l'équilibre, les transferts, la marche, les déplacements. Ils ont plus envie de se mettre en action, ils ont plus de plaisir et ils ont envie de continuer ça à la fin de la réadaptation.
Donc, plus envie de se mettre en action, peut-être plus grande confiance en soi aussi.
Exact.
Suite à un accident, par exemple, on peut penser que c'est plus difficile de sortir de la maison, on est plus craintif, l'équilibre, comme vous le disiez. Donc, ça amène de la confiance en soi. Est-ce que les gens sont amenés à se produire en spectacle?
Il faudrait demander à nos usagers.
Oh, on pourrait le demander, oui.
Ça dépend qui. On a toutes sortes d'usagers. Donc, c'est très variable ce qu'on a. La plupart de nos usagers ne sont pas beaucoup dans la performance, dans l'expression, dans l'esthétisme. Ils sont beaucoup plus là pour le plaisir de s'activer, faire du sport, bouger, rencontrer des gens. Donc, non, je ne pense pas qu'ils ont plus envie d'aller dans le spectacle. Par contre, si avant, ils étaient des personnes qui avaient envie de... une fibre un peu plus artistique, ça se peut qu'après, ils développent ça et ils rentrent dans un organisme. Par exemple, Jacinthe Giroux, qui a eu un AVC, donne des groupes de danse pour des gens. Il fait des spectacles.
S'il y a un aspect de plaisir, est-ce qu'il y a également un aspect qui est là pour contrer la douleur chronique qui peut être associée, par exemple, à un accident ou toute autre limitation fonctionnelle?
Oui, bien, c'est une de nos clientèles, les gens qui ont eu une douleur chronique, on en a dans notre groupe de danse. On remarque que ça a un impact parce que lorsqu'on est en thérapie individuelle, en physio ou en ergo, on fait des exercices, on travaille fort, on regarde notre posture, on veut bien faire les choses. En danse, dans nos groupes de danse, on oublie ça. Il y a de la musique, il y a du plaisir, il y a des gens. On oublie un peu l'importance de bien faire les choses et on se laisse un peu plus aller. Et donc, oui, c'est un commentaire qu'on a de nos usagers que la plupart du temps, ils oublient leur douleur dans le groupe de danse.
Et comment on amène cela? Bon, tantôt, vous parliez que le profil des participants sont peut-être des gens plus créatifs. Mais est-ce que ça vous est arrivé d'aborder des gens qui n'ont jamais fait ça de leur vie, de la danse, qui n'ont même jamais pensé à en faire, et que là, parce qu'il y a des nouveaux défis qui se présentent dans leur vie, parce qu'il s'est présenté un obstacle, tout d'un coup, ils ont cette ouverture-là?
Oui, il y en a beaucoup. C'est la majorité de notre clientèle qui n'était pas attirée par la danse à la base. Il y a plusieurs gens qui nous disent au début du groupe, quand je leur parle de « ça vous tente-tu de participer à un groupe de thérapie par la danse? » Ben là, j'ai jamais dansé de ma vie. Moi, le cha-cha, danse sociale, c'est pas mon fort. Je serai jamais capable. Il y en a beaucoup de ça. Et c'est justement eux qui réussissent le mieux, souvent, parce que ils veulent bouger. Ils veulent recommencer à avoir du plaisir dans le mouvement. C'est pas vraiment de la... Ben oui, c'est de la danse, mais c'est pas une technique de danse particulière. On fait pas de ballet classique, on fait pas de cha-cha ou de valse. C'est vraiment plus du mouvement, c'est très créatif, c'est très de l'improvisation. Donc, ça va beaucoup chercher les gens qui, à la base, n'auraient jamais fait de danse et qui, là, redécouvrent le plaisir de bouger en groupe.
Avec des gens qui peuvent leur ressembler, à qui ils peuvent s'associer. Est-ce qu'il y a parmi vos participants des gens qui ont des aides techniques? Je pense à des fauteuils roulants ou autre chose, oui?
Il y en a. Il y a toutes sortes de personnes. Il y a des gens avec des fauteuils roulants motorisés, des fauteuils roulants manuels, des cannes, des béquilles. Il y en a qui n'en ont même pas, que c'est visiblement, c'est pas visible leur handicap, mais qui ont des déficiences, qui ont des limitations quand même.
Et ça se passe comment, quand ils ont besoin d'un... Est-ce qu'ils le mettent de côté s'ils le peuvent ou sinon, non?
Bien, s'ils le peuvent, oui. Mais on est extrêmement sécuritaire dans nos groupes. On veut pas qu'il y ait de chute, on veut pas qu'ils se blessent et que ça s'aggrave. Donc, on est beaucoup plus dans la sécurité. Au contraire, on a un discours qui va plus dans l'intégration de l'aide technique dans la danse. Donc, comment est-ce que je peux danser avec mon aide technique pour me l'approprier, pour l'accepter un peu mieux, puis qu'ensuite, dans mon quotidien, ça soit plus facile de l'utiliser. Donc, on est plus dans l'intégration d'aide technique. Mais c'est sûr qu'on est aussi dans le développement des capacités. Donc, s'il peut laisser tomber sa canne sans risque, bien, tant mieux. Et là, on va diminuer les craintes de ne pas avoir d'aide technique. Parce que des fois, une canne, c'est rassurant. Ouais. Et là, on veut la garder quand on est capable de faire mieux. Donc, on est dans les deux.
Avez-vous l'impression, Chloé Progoulet, que ça amène une certaine forme de résilience? En fait, ça peut amener vers une certaine forme de résilience.
Bien sûr, parce que la créativité, c'est un des facteurs le plus important de la résilience. Dans le groupe de danse, il n'y a pas de mouvement obligatoire. Ouais. On propose, on fait des suggestions aux participants. Ensuite, c'est à eux à essayer de développer leur façon à eux de bouger qui est confortable et qui leur ressemble. Donc là, ils développent des choses qu'ils pensaient peut-être pas faire. Ils trouvent des trucs, ils trouvent des solutions et ça leur permet de dire « Ah, mais dans la vie de tous les jours, peut-être que quand je fais mon ménage, je pourrais me pencher de cette façon-là pour que ça puisse fonctionner. » Ou quand je vais dans une foule puis que j'ai peur de me faire blesser parce que j'ai eu un traumatisme, mais je vais repenser à mon groupe de danse puis « Ah oui, c'est vrai, finalement, c'est plus facile de marcher dans la foule, je suis moins stressée, c'est plus facile pour moi. » Donc oui, la créativité est un gros facteur de résilience.
Et après ce 12 semaines-là, c'est terminé. J'imagine que les participants ont envie que ça se reproduise. Est-ce que ça se poursuive?
Oui, il y en a beaucoup qui nous demandent de recommencer. On les accepte s'il y a toujours un objectif de réadaptation. Parce qu'on n'est pas un organisme de loisirs, on est un organisme de réadaptation. Donc, s'il y a des objectifs à atteindre, oui, on les accepte. Sinon, dans le cadre de notre groupe, on leur présente des organismes qui existent dans la communauté qui peuvent poursuivre par la suite à la fin de leur adaptation. Et c'est très important parce qu'on ne veut pas qu'ils perdent leurs acquis. Donc, on va leur présenter des groupes comme Luca, qui son équipe est déjà venue dans notre groupe de danse.
Luca, les Ilex, Patouani.
Exact. Il y a France Geoffroy qui offre des cours. Il y a l'organisme VioMax qui en offre aussi. Donc, on leur présente des groupes de danse dans la communauté qui sont adaptés à leur capacité, ou est-ce qu'ils peuvent poursuivre des activités de loisirs à la fin pour continuer à maintenir leurs acquis?
Je cite M. Pierre-Paul Miette, qui est le directeur général du Centre de réadaptation Lucie Bruneau, donc un peu votre patron, Chloé, et qui disait quelque chose qui est en lien avec notre conversation, mais qui, moi, m'a vraiment allumée, c'est-à-dire sur l'impact de la créativité dans la réadaptation et à quel point c'est un aspect méconnu de la réadaptation. On en a discuté un petit peu, mais est-ce que c'était nouveau pour vous dans votre approche? Là, bien sûr, ça fait quelques années, depuis 2009, mais de découvrir à quel point ça a un impact.
Oui, ben j'ai une expérience en danse, moi, à la base. Donc,
c'est pour ça!
J'étais sensibilisée au pouvoir de la créativité. Mais oui, je remarque avec mes usagers à quel point ça peut être utile, la créativité. Je remarque une différence entre mes traitements, mes thérapies individuelles et les traitements en groupe. Je ne dis pas que je suis moins efficace en individuel, mais je remarque que c'est différent. Le fait d'être entouré de d'autres personnes, le fait de créer soi-même ses propres stratégies, ça permet aux usagers d'envisager un avenir possible, de trouver des solutions. Il y a une certaine responsabilisation de leur réadaptation, une certaine prise en charge par l'usager de sa propre vie. Donc oui, je vois une différence.
Et de poursuivre aussi par la suite, quand peut-être les objectifs de réadaptation ont été ciblés et atteints, de poursuivre la pratique d'une activité physique dans leur quotidien, que ce soit la danse ou autre chose, et d'ainsi se sentir vivant, se sentir actif et de prendre part. Oui. Et ça, c'est un aspect assez important de cette collaboration-là, prendre part à la société, à oui. la vie active.
Oui, parce que les gens, quand ils ont eu un handicap, un accident, une maladie, ils ont tendance à pas penser à la vie après la réadaptation. Quand ils sont en réadaptation, ils veulent s'améliorer, ils veulent guérir, mais des fois, on reste avec des séquelles et ils pensent pas, les usagers ne pensent pas à la vie après. Donc, ça leur permet d'envisager un futur, de voir, ben oui, dans le fond, je pourrais avoir des loisirs, puis ma vie sera pas plate, mm-hmm. puis je vais essayer de trouver, avoir un horaire occupationnel qui est satisfaisant.
Ouais, et que peut-être dans cette nouvelle vie, qu'il débute, il peut y avoir du plaisir, des nouvelles rencontres.
Ouais. Exact. Ouais. De retrouver des amis, d'avoir des contacts, d'avoir des projets. Il y a des gens qui deviennent bénévoles, il y a des gens qui se créent tout un réseau social dans leurs loisirs. Donc, il y a plein d'autres défis après la réadaptation.
Ouais. Maintenant, pour les gens qui nous écoutent, Chloé, et qui auraient envie de participer, de prendre part à ces ateliers-là, ils font comment?
Bien, actuellement, il faut être usager de Lucie Bruno. Donc, si vous n'êtes pas usager de Lucie Bruno, vous ne pouvez pas participer à nos ateliers de groupe de danse-thérapie. Par contre, il y a des organismes dans la communauté de loisirs qui existent, donc comme Lazy Legs offre des groupes de danse. Comme j'ai dit tantôt, il y a Viomax, il y a France Geoffroy, il y a Jacinthe Giroux. Donc, il existe déjà pas beaucoup, vraiment pas beaucoup.
Pas suffisamment.
Non, pas suffisamment et c'est pas assez organisé. Il y a pas assez de financement pour les aider à poursuivre. Mais il existe certains organismes dans la communauté où est-ce qu'il y a des cours de danse, des groupes de danse comme loisirs.
Pour plus de détails, www.luciebruno.qc.ca. Est-ce que c'est suffisant comme information pour le moment de laisser ce site-là?
On essaie, Lucie Bruno essaie beaucoup d'être en collaboration avec les organismes communautaires. Donc oui, on essaie de faciliter l'accès à l'information. Mais c'est sûr que si la danse était plus connue, s'il ouais. y avait plus d'organismes, s'il y avait plus de financement, ce serait beaucoup plus facile pour les usagers.
On vous entend bien, Chloé Pro-Goulet. Je rappelle que vous êtes ergothérapeute et co-responsable du groupe de thérapie par la danse du Centre de réadaptation Lucie Bruno. Merci beaucoup.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Autour de cette table, eh bien, il y a toujours Chloé Pro-Goulet, ergothérapeute et co-responsable du groupe de thérapie par la danse du Centre de réadaptation Lucie Bruno, également Luca Lizilegs Patuelli et Marie-Claude Théroux. Luca, danseur professionnel, danseur de breakdance de renommée internationale. Bonjour Luca, merci Bonjour. D'être là. Marie-Claude Théroux, qui, elle, est usagère, qui a pris part aux ateliers de danse, de thérapie par la danse du Centre de réadaptation Lucie Bruno. Vous êtes là tous les trois pour entamer cette discussion sur l'apport de la danse dans votre vie. Je vais débuter avec Marie-Claude. Marie-Claude Théroux, vous êtes usagère au Centre de réadaptation Lucie Bruno. Qu'est-ce qui vous a amené là dans votre parcours de vie?
Bien, premièrement, à Lucie Bruno, c'est que j'ai paralysé. Donc, après ça, on m'a transférée à Lucie Bruno pour avoir des traitements. Donc, au départ, c'était physiothérapie, ergothérapie, kinésiologie. Et la responsable, comme du dossier, m'a proposé différentes activités qui étaient offertes à Lucie Bruno, dont le groupe de danse-thérapie. Et comme j'aimais depuis toujours la danse, c'est ça qui m'a le plus tenté. Donc, j'ai eu la chance de participer à deux sessions de danse-thérapie à Lucie Bruno.
Luca, vous, la danse, ça fait partie de votre vie depuis plusieurs années. Vous avez commencé à danser depuis l'âge de 15 ans.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a amené vers la danse?
Pour moi, la danse, ça m'a donné la confiance en moi-même et ça m'a donné l'opportunité d'accepter ma situation et utiliser mes forces et pas mes faiblesses dans mon quotidien. Et ça m'a aidé beaucoup en général. Plus la danse, c'est une façon de s'exprimer et oublier de tout le stress et les distractions dans la vie des fois.
Mm-hmm. Luca, vous vivez également avec une limitation fonctionnelle. Est-ce que vous avez eu l'impression que ça vous a permis de vous démarquer, cette différence-là, ou ça a créé plutôt des obstacles?
En fait, quand j'étais jeune, j'étais toujours très actif. Alors, mon handicap m'a jamais... Je ne m'ai jamais senti différent.
Mm-hmm.
N'importe quelle activité que j'ai vu mes amis faire, je voulais toujours répéter ça, mais le faire dans ma façon.
Ouais.
C'est sûr qu'il y avait des moments dans ma vie qui c'était difficile. Tu sais, en grandissant dans mes adolescents, en parler avec les filles, c'était quelque chose que j'étais très timide à cause de mon handicap parce que je voyais mes amis sortir avec des filles et moi, je suis comme...
Mais la danse, ça vous rendait sexy, je suis
Exactement, oui. Mais tu peux m'appeler sexy legs, tu sais. Alors, mais c'est vrai que la danse m'a donné la confiance à parler avec du monde. C'est pas seulement parler verbalement avec les gens, mais aussi parler physiquement. Et en fait, quand tu danses, c'est vraiment cette expression. Alors, quand j'étais vraiment stressé, tu pouvais voir le stress que je mettais sur la piste de danse. Si j'étais content, si j'étais joyeux, vous pouvez voir ça. Et pour les personnes qui suivent les compétitions dans les battles, tu peux voir des différences de chaque journée pour chaque battle. Ça dépend vraiment de l'énergie, l'émotion que je sens cette journée-là.
Marie-Claude, vous avez mentionné que la danse, vous aimiez ça, même avant
oui.
les nouveaux défis de votre vie. Donc, vous dansiez avant?
Oui, bien, j'ai fait du ballet jazz toute mon adolescence jusqu'au cégep.
Et est-ce qu'une fois... dans les ateliers offerts par le Centre de réadaptation Lucie Bruneau, votre approche de la danse était différente? Est-ce que vos mouvements l'étaient
oui,
également?
Parce que j'étais limitée, parce que j'avais paralysé de mon côté droit. Donc, l'expression, ce que j'avais l'habitude de faire en expression en danse, je n'avais pas le choix de le modifier.
Mm-hmm.
L'avantage qu'on avait, c'est que comme c'était... il y avait beaucoup d'improvisation. À ce moment-là, ben, on pouvait se servir de ce qui nous restait de fonctionnel. Pour s'exprimer. Et au fur et à mesure qu'on progressait dans notre réhabilitation, bien, à ce moment-là, on était capable d'aller chercher des mouvements qu'on ne pensait pas être capable d'effectuer au début de la session.
Si je peux me permettre...
Oui, j'allais vous lancer, Chloé.
Je vais briser le secret professionnel, mais moi, j'ai vu une belle amélioration de Marie-Claude durant les sessions. Au début, elle arrivait, puis elle ne savait pas trop qu'est-ce qu'elle faisait au groupe. Elle se demandait comment elle allait pouvoir danser avec son nouvel état. Puis tranquillement, je l'ai senti reprendre confiance, avoir envie de se mettre en mouvement, faire plus de choses, oser un peu plus.
Mm-hmm. Ça prend combien de temps? Et je m'adresse autant à vous, Chloé, qu'à vous, Luca, parce qu'à travers le projet RAD, qui est réservé aux danseurs, RAD pour réserver aux danseurs, et qui s'adresse à des enfants qui ont des besoins particuliers, à qui vous offrez des cours, ça prend combien de temps avant de voir soit qu'on se dégêne ou qu'il y a des améliorations au point de vue des mouvements?
Ça dépend.
Oui.
Ça dépend de chaque personne.
Oui.
Il y a des gens qui sont facilement à l'aise, qui arrivent, puis tout d'un coup, ils ont du plaisir, puis ils s'ouvrent. Puis il y en a d'autres qu'ils sont très réticents, ils ont de la difficulté à accepter leurs nouvelles limitations. En tout cas, dans mon groupe, souvent, c'est des gens qui n'avaient pas de limitation avant. Donc, ça prend un peu plus de temps. Ils ont des deuils à faire. Puis, à un moment donné, ça se fait avec le plaisir, avec le mouvement. Ça dépend des gens.
Oui, j'allais dire exactement la même chose. Chaque personne est complètement différente. Des fois, on peut donner le premier cours et tu vois comme une différence immédiatement avec une certaine jeune ou quelque chose comme ça. Et il y a des autres personnes que ça peut prendre 4, 5, 6 semaines. Et peut-être on va pas le voir comme... live en personne,
tout de suite, ouais.
Mais on va entendre des histoires peut-être avec les parents où les parents vont dire « Ah, il y a mon jeune qui a fait son devoir toute seule, comme qui n'a rien à voir avec la danse,
ah,
mais
oui.
le fait que la danse lui a donné l'opportunité de donner la confiance en eux-mêmes, ils vont faire des autres choses. Comme j'entends des histoires avec certains de mes jeunes qui commencent à prendre le transport adapté toute seule. En fait, comme c'est eux qui font les appels, c'est plus les parents. C'est des petites choses qui n'ont rien à voir avec la danse.
Mais des grandes choses pour eux.
Oui, exactement, des grandes choses. Et en fait, qu'est-ce que j'aimerais dire, c'est que nous, on donne des cours de danse, mais à la fin de la journée, c'est aussi des cours de grandir la confiance en tout le monde. Parce que c'est pas seulement la danse, c'est une cours de fun.
Oui, la notion de plaisir est très importante. Hein? Autant dans votre discours, Chloé et Luca, Marie-Claude, vous aviez du plaisir, bien sûr.
Oui. Et c'est la seule activité, je dirais, à Lucie Bruno. C'est pas qu'on n'avait pas de plaisir à la kiné ou en ergo, là, mais c'était du travail dans les autres domaines. Alors qu'au cours de danse, c'est vraiment de réapprendre à avoir du plaisir dans notre corps qui nous a lâchés. Oui. Donc, c'est énorme la différence que ça fait.
Et de réapprendre à lui faire confiance, même s'il vous a lâché.
C'est ça, tout à fait.
Ouais. Est-ce que vous allez poursuivre après, ou peut-être c'est déjà fait, des cours de danse dans votre quotidien?
Non, pas présentement. Là, j'ai switché pour le tai chi présentement.
ce qui est quand même bien, hein, parce qu'il faut demeurer actif.
C'est ça. Mais éventuellement, probablement que je vais essayer de trouver quelque chose d'adapté parce que je veux rester avec des limitations. Donc, faut que ce soit quelque chose d'adapté. Là, je peux pas aller à un cours de danse régulier.
Ouais. Luca, à travers le projet RAD, est-ce qu'il y a la notion de spectacle?
Oui. En fait, tous nos jeunes, comme ils prennent des cours, alors nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est on rentre dans des studios de danse pour les rendre accessibles et on offre des cours spécialisés, soit on forme les professeurs dans les studios ou c'est nous-mêmes qui on donne des cours. Et nos jeunes, à la fin de la session, font toujours une performance avec le reste de l'école de danse. Alors l'idée, c'est vraiment l'inclusion, que nos jeunes font partie de le studio de danse et ils vont performer avec tout le monde. Et on essaie vraiment à collaborer avec les studios de danse pour chercher des lieux accessibles pour vraiment avoir l'idée que c'est tout âge, toute habilité. Si le lieu n'est pas accessible, moi, je vais inclure les jeunes dans mes performances, soit
Quelle
à
chance.
Une école ou quelque chose comme ça. On essaie vraiment de donner une opportunité à les jeunes pour performer parce que ça, c'est un peu comme, je sais pas comment dire en français, mais... « The cherry on the top », comme...
La cerise sur le sundae, ouais.
Oui, la cerise, c'est un peu comme tu travailles pour 10 semaines, 12 semaines, 16 semaines, ça dépend.
Et tu veux livrer le fruit de tes performances et de ton travail. Luca Lesielex-Patuelli, merci beaucoup. Je laisse l'adresse de Projet RAD, www.projetrad.com, pour en savoir davantage et avoir accès aux cours et à vos enseignants et à vos beaux projets. Il n'y a pas d'excuse, pas de limite
Exactement.
Avec vous. Également, autour de cette table, Marie-Claude Théroux, elle usagère, qui a pris part aux atelier de danse, de thérapie par la danse du Centre de réadaptation Lucie Bruno. Merci beaucoup.
Merci.
Et Chloé Prou-Goulaire, go-thérapeute et co-responsable du groupe de thérapie par la danse. Merci beaucoup de votre participation à l'émission.
Plaisir.
Ça a été un plaisir de vous entendre sur votre plaisir de danser ou d'accompagner des gens qui dansent. C'était Marianne Paquette au micro. Merci à Martin Dupuis à la mise en onde. Nous, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse et suivez-nous, canalm.org, Facebook et Twitter également, pour C'est bon pour la santé.